Cette émission vous est proposée par la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD, la banque de référence pour un impact durable sur l'intégration et la transformation de l'Afrique de l'Ouest.
Écho d'ici, écho d'ailleurs.
Bruno Faure.
Bonjour à tous et bienvenue dans cet écho d'ici, écho d'ailleurs, exceptionnel. Il va donner la parole à trois grands économistes, français, russes et américains. Lady Gaga, qui chantait l'hymne des États-Unis, c'était il y a 4 ans pour l'investiture de Joe Biden. Mais début janvier, c'est bien Donald Trump qui sera de retour à la Maison-Blanche avec une ambition énorme pour la première puissance économique de la planète.
Je vais me battre pour vous, vos familles, votre avenir. Je me battrai pour une Amérique forte, sûre, prospère, que vos enfants méritent et vous aussi. Ce sera l'âge d'or de l'Amérique.
L'âge d'or de l'Amérique, Donald Trump, lors de son premier discours après la présidentielle, discours avant tout de remerciement. En attendant, ses électeurs sont heureux et veulent croire en un avenir meilleur.
Je suis très heureux, on est de nouveau sur les rails. Les démocrates ont raté les sujets essentiels, l'économie et l'immigration. Il faut reprendre le contrôle de l'inflation. Les gens ne peuvent pas se nourrir, se loger, c'est terrible.
L'alimentation coûte 2 fois plus cher, le prix du gaz a triplé et la facture d'électricité est 2 fois plus élevée qu'il y a 8 ans. Les impôts, c'est de la folie. Franchement, ça me fait peur, c'est effrayant.
Le plus important, c'est l'économie et les salaires. Je pense que Trump fera mieux pour rétablir les prix, celui du carburant et le reste.
L'inflation au premier rang des préoccupations des Américains, quelle que soit leur origine. Que va faire Donald Trump en la matière? Quelle sera sa politique fiscale et quelle sera sa politique commerciale? Lui qui a déjà promis d'imposer des droits de douane sévères à ses concurrents, la Chine, l'Europe et même l'Afrique ont sans doute du souci à se faire. Nous en parlions très récemment dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs, une émission sur les conséquences commerciales d'un retour au pouvoir de celui qui était encore à l'époque le candidat républicain. Est-ce un nouveau choc d'ampleur pour l'économie mondiale? Nous allons en parler dans quelques minutes avec un prestigieux économiste américain, Robert Gordon, célèbre pour ses travaux sur la croissance économique, la productivité, le chômage et l'impact des nouvelles technologies. Il nous a accordé un entretien exclusif. L'élection aux États-Unis et les conséquences, surtout pour l'Europe, nous allons les analyser cette fois avec Philippe Aguillon, l'un des plus grands économistes français. Il veut voir, dans le retour de Donald Trump, une opportunité pour le vieux continent. Et puis, et ce sera le troisième volet de cette émission, pas comme les autres, nous avons pu rencontrer Sergueï Gouriev, économiste russe, dissident, récemment nommé doyen de la London Business School. Comment voit-il évoluer le conflit en Ukraine? Les sanctions contre le régime de Vladimir Poutine sont-elles efficaces? Pourquoi populisme et économie continuent de faire bon ménage? Entretien à suivre tout à l'heure avec Sergueï Gouriev. Il nous parlera aussi du nouveau poids de la Russie en Afrique. Nous attendons vos commentaires sur nos réseaux sociaux et notamment notre page Facebook RFI Echo. Bonne émission à toutes et à tous. The Rise and Fall of American Growth. L'apogée et la chute de la croissance américaine, c'est le livre qui, en 2016, a fait de Robert Gordon l'une des références dans son domaine. Cet économiste de l'université de Northwestern, dans l'état de l'Illinois, y défend notamment la thèse que la révolution numérique ne produira pas les effets escomptés en termes de croissance et donc de prospérité. Robert Gordon, né au début de la Seconde Guerre mondiale, formé à Harvard et au MIT, nous avons eu la chance de le rencontrer. Cette semaine, juste après la victoire de Donald Trump, il était de passage à Lyon, dans le sud-est de la France, à l'occasion des Journées de l'économie. 3 jours de conférences en présence des plus grands spécialistes sur les grands sujets économiques de notre temps. Bonjour Robert Gordon.
Ah, bonjour.
Merci de nous avoir accordé cet entretien. Comment analysez-vous l'élection de Donald Trump, vous qui avez une longue expérience de la vie politique américaine?
Bien, c'est assez simple de comprendre ce qui s'est passé. Il y a deux facteurs principaux, l'économie et l'immigration. Que dire sur l'économie? Les États-Unis, comme l'Europe, ont subi une forte inflation entre 2021 et 2023, pendant la présidence de Joe Biden. Donc, même si elle est redescendue cette année à 2% aux États-Unis et presque partout en Europe, ce dont les électeurs se sont souvenus, c'est de la hausse des prix cumulés de ces quatre dernières années. Leur niveau de vie a diminué de 20%. Et même si les salaires ont un peu augmenté, les gens pensent que l'inflation les a pénalisés, que les augmentations de salaire n'étaient qu'une récompense pour la qualité de leur travail. Donc toute l'inflation a été imputée à Biden, qui est devenu l'un des présidents les plus impopulaires. Et lorsqu'on leur a demandé, les électeurs ont répondu « L'économie est sans conteste le principal enjeu de cette élection ». Le deuxième aspect, c'est donc l'immigration. Et Biden s'est tiré une balle dans le pied en permettant une immigration non contrôlée. Ce qui s'est passé, c'est que les États proches de la frontière ont mis des immigrants dans des bus et les ont envoyés à New York et à Chicago, ce qui a provoqué des milliards de dollars de dépenses pour ces villes du Nord contrôlées par les démocrates. L'immigration est devenue impopulaire non seulement à la frontière, mais elle est devenue aussi impopulaire dans les villes du Nord où les nouveaux immigrants ont dû cohabiter avec la population sans abri, les villes ne sachant pas où les loger. C'était juste une énorme erreur. Maintenant, mon analyse de ces quatre dernières années, c'est que la pandémie explique tout. Elle explique pourquoi Trump a perdu en 2020, à cause de la récession de cette année-là. Sans la pandémie, Trump aurait été président pendant deux mandats consécutifs. Il aurait été jugé responsable de l'inflation à la place de Biden. Maintenant, les démocrates ont tout perdu. Ils vont perdre le contrôle du Congrès et donc beaucoup de mauvaises choses vont arriver au monde et aux Américains, à la société américaine, à cause de cet épisode particulier qu'a été la pandémie.
Voilà donc Robert Gordon pour les causes de la victoire de Donald Trump. Maintenant, quelles vont être selon vous les conséquences de son retour au pouvoir sur l'inflation en particulier ?
En matière d'inflation, il y a la menace de Trump d'imposer des droits de douane à tout le monde. Il y aura des représailles, il y aura une guerre commerciale. Et la première conséquence, c'est que les prix vont immédiatement flamber aux États-Unis. Donc Trump, qui a remporté la victoire grâce à l'inflation, va créer sa propre inflation. Il deviendra très impopulaire et les démocrates vont reprendre le Congrès en 2026. Trump va aussi diminuer les impôts et créer davantage de déficits, ce qui entraînera davantage de mesures de relance de la part du gouvernement, qui est déjà lourdement endetté. Donc au total, nous aurons de la croissance grâce aux tarifs douaniers, mais dans le même temps, ces tarifs douaniers vont réduire les exportations américaines. On va donc avoir deux mouvements contradictoires. Le déficit va stimuler l'économie, mais en même temps, les représailles aux tarifs douaniers vont nuire à l'économie.
Pas mal d'incertitudes donc pour les ménages américains, mais au final, est-ce qu'on peut dire que Donald Trump hérite globalement d'une économie en bonne santé ?
La croissance est plutôt robuste, même s'il y a un grand débat parmi les économistes américains pour savoir dans quelle mesure l'intelligence artificielle va stimuler la croissance à l'avenir. La productivité, la production horaire a augmenté de près de 2% au cours des cinq dernières années, contrairement à l'Europe où c'est moins d'un demi%. Donc je pense que nous n'allons pas avoir de problème de chômage, pas de récession, surtout si nous avons toutes ces nouvelles baisses d'impôts prévues par le déficit. Je pense que nous allons continuer à injecter de l'argent dans l'économie. Le marché boursier a grossi de 22% pour l'indice général et de 25% pour l'indice Nasdaq, les valeurs technologiques. Nous avons donc beaucoup de richesses créées aux États-Unis à partir de la bourse. Beaucoup de consommateurs se sentent plus riches et nous allons avoir une hausse des dépenses de consommation qui explique en partie pourquoi l'économie américaine se porte bien. La preuve, la croissance américaine a été deux fois plus forte qu'en Europe depuis la pandémie. Nous avons eu près de 2% par an.
Comment expliquez-vous, Robert Gordon, cette différence de performance entre les États-Unis et l'Europe ?
Je me souviens de la période entre 1995 et 2005, au début d'Internet. Tout le monde s'est tourné vers le haut débit, les ordinateurs personnels, le commerce électronique. La croissance de la productivité américaine a presque doublé. Mais en Europe, aucun impact apparent, alors que nous utilisons les ordinateurs de la même manière. Pourquoi la productivité européenne n'a pas augmenté comme aux États-Unis? C'est une grande énigme. À l'époque, j'ai fait des études, industrie par industrie, pour comparer les productivités européennes et américaines. Résultat, elle était à peu près de moitié en Europe. Ce n'est donc pas seulement une question de technologie de l'information, mais de productivité. Et aujourd'hui, c'est la même chose.
Alors, on dit beaucoup que l'économie américaine est de plus en plus concurrencée par l'économie chinoise, prête à prendre la place de numéro un. Qu'en pensez-vous ?
Non, c'est le contraire. L'économie chinoise est fortement pénalisée par son marché immobilier en surcapacité. Il y a 60 millions d'appartements vacants en Chine. Les prix baissent, les ménages accumulent une richesse spéculative en achetant des appartements sans en avoir besoin. Les prix baissent et ils perdent donc de la richesse. Cela réduit la consommation. Les droits de douane que Trump va imposer auront aussi un impact important sur les exportations chinoises. La Chine a des problèmes bien plus grave que les nôtres.
Revenons, Robert Gordon, à la technologie et aux impacts de l'intelligence artificielle, à la fois sur l'emploi, sur la productivité, le progrès humain. Quelles sont vos conclusions ?
Eh bien, la première chose qu'on peut dire, c'est OK, combien de personnes qui travaillent sur un ordinateur pourraient éventuellement être concernées par l'IA pour l'écriture de mémo, pour la programmation, le codage informatique? Mais ça ne concerne que 20 à 25% des travailleurs. Tout le secteur manufacturier, la construction, les mines, la vente au détail, le commerce de gros, les restaurants, les hôtels, les hôpitaux, les enseignants du primaire. Dans tous ces secteurs, on ne travaille pas quotidiennement avec un ordinateur. On est en contact soit avec ce qu'on fabrique, soit avec les personnes que l'on sert. Donc oui, 75% des acteurs de l'économie ne devraient pas craindre de perdre leur emploi à cause de l'intelligence artificielle. Et qu'en est-il des personnes qui utilisent les ordinateurs ? Les emplois les plus menacés sont ceux des programmateurs informatiques qui écrivent des logiciels et les personnes qui créent des images. Mais quand on fait une étude approfondie du travail des programmateurs informatiques, on voit que seulement un tiers de leur temps est consacré à l'écriture de code. Le reste est pour découvrir ce qu'ils sont censés faire, expliquer leurs résultats, le travail administratif, compter leurs heures. Alors, ces gens vont-ils perdre leur emploi ? Vous ne pouvez pas licencier un tiers d'une personne. Et chacune de ces personnes fait des choses différentes qui doivent être expliquées à celui qui les emploie. Je pense donc que les inquiétudes concernant les pertes d'emploi dues à l'intelligence artificielle sont très exagérées. Je pense que nous obtiendrons quelques petits gains de productivité. Ce sera très long dans le temps. Et puis, n'oubliez pas que nous avons déjà l'intelligence artificielle depuis plus de 10 ans. Lorsque vous parlez au service client, vous parlez généralement à une voix d'ordinateur qui comprend votre voix. Nous avons déjà de gros gains de productivité grâce à l'intelligence artificielle, mais cela n'apparaît pas encore dans les statistiques nationales. Je pense donc que c'est beaucoup trop exagéré.
L'une des grandes inquiétudes dans le monde après l'élection de Donald Trump, c'est la lutte contre le changement climatique, la transition énergétique. Quels sont les enjeux, selon vous, aux États-Unis et dans les pays développés ? L'IA, par exemple, est-ce que ça va avoir un impact ?
Il est vrai que les grands centres de données informatiques consomment beaucoup d'électricité. Il va donc y avoir une demande accrue. Mais la question est surtout, avons-nous suffisamment de ressources renouvelables et de batteries pour les moments où le soleil ne brille pas, quand le vent ne souffle pas ? Ça, c'est une conséquence à court terme. Le problème qui est bien plus important, c'est le financement de l'innovation. Nous avons besoin de beaucoup d'investissements pour remplacer les moteurs à combustion interne, pour remplacer le chauffage des maisons et des bureaux, pour que les usines fonctionnent à l'électricité plutôt qu'aux combustibles fossiles. Nous devons construire toute l'infrastructure de production d'électricité pour les véhicules électriques, le chauffage et aux industries qui utilisaient jusque-là des énergies fossiles. Personnellement, je pense que l'Europe pousse la révolution verte trop vite et trop fort. Je pense que nous devrions le faire plus progressivement, parce que chaque année, le prix des panneaux solaires et de l'énergie éolienne diminue, et donc le coût de tout ce remplacement va devenir de plus en plus favorable. Donc je pense que les pays développés devraient reporter l'objectif zéro émission de 2050 à 2060 ou 2070. Il ne faut pas oublier que 90% de la population mondiale vit en dehors de l'Europe et des États-Unis. Sur les 8 milliards de terriens, ils ne sont que 800 millions dans ces deux parties du monde. L'avenir du changement climatique dépendra beaucoup plus de ce qui arrive aux 90% restants, de la rapidité, de la manière avec laquelle ils se développeront. Est-ce qu'ils vont utiliser les combustibles fossiles, comme nous, au siècle dernier? Donc je pense que cette énorme pression, toutes les réglementations pour se débarrasser du carbone si rapidement, ce sont juste des contraintes inutiles pour la génération actuelle.
Thank you so much, Robert Gordon.
So glad to be here. Mon plaisir. Et merci à vous.
Robert Gordon, de l'Université Northwestern aux États-Unis. La planète peut-elle attendre 2060 ou 2070 pour atteindre la neutralité carbone? Chacun peut avoir son opinion, mais il faut quand même préciser que les rapports du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, sont beaucoup plus alarmistes et préconisent le zéro émission dès 2050. Restez à l'écoute d'Éco d'ici, Éco d'ailleurs. Dans quelques minutes, entretien tout aussi passionnant avec l'économiste russe Sergueï Gouriev. La guerre en Ukraine, l'économie de la Russie, les sanctions occidentales et la montée des populismes.
Éco d'ici, Éco d'ailleurs, Bruno Faure.
Avant cela, retour à l'événement de la semaine. Quelles conséquences économiques au niveau mondial après l'élection de Donald Trump? Que doivent faire les Européens menacés de décrochage? Entretien avec Philippe Aguillon, professeur au Collège de France, à l'INSEAD, l'Institut européen d'administration des affaires, et à la London School of Economics.
Bonjour Philippe Aguillon.
Bonjour.
L'élection de Donald Trump à la présidence aux États-Unis, est-ce que c'est un nouveau choc pour l'économie mondiale en très peu de temps après le Covid et la guerre en Ukraine?
Ça peut être un choc, c'est-à-dire qu'il prévoit d'augmenter des tarifs, quoi, donc de resserrer encore, de se fermer encore davantage au commerce. Donc ça, dans cela, ça peut être un choc. Donc on va guetter évidemment les augmentations de tarifs et des restrictions de relations commerciales avec la Chine. Donc, en cela, il peut y avoir un choc économique venant de là, quoi.
Du point de vue commercial, ça peut être pire qu'en 2016?
Il peut vouloir aller plus loin qu'en 2016. On va voir si c'était juste des thèmes de campagne ou s'il veut vraiment encore aller plus loin. Donc, voilà, on dit en anglais « jury is out », c'est-à-dire que voilà, c'est à voir encore ce qui va se passer ou pas, quoi. Mais on peut craindre qu'ils mettent des tarifs supplémentaires, que ça crée des hausses de prix et que pour endiguer l'inflation qui en résulterait, ils prennent des mesures extrêmes ou ils obligent la Banque centrale à prendre des... Ça peut créer de l'incertitude, voilà.
Entre-temps, depuis 2016, depuis sa première élection, depuis qu'il a quitté le pouvoir en 2020, il s'est passé plein de choses aussi sur la planète économie. Ce Covid, cette guerre en Ukraine, ça a encore... raidit les dirigeants de la planète.
Oui, absolument. On assiste. Mais alors, ce qui peut se passer, c'est qu'effectivement, paradoxalement, il se peut qu'il... mon espoir, donc j'étais dévasté par la nouvelle de l'élection de Trump, qu'il ait gagné même le vote populaire. Mais en fait, c'est très intéressant parce que Kamala Harris fait les frais de l'augmentation d'inflation qui était inévitable due à la sortie du Covid que nous avons eu partout dans le monde. Mais là, ça a joué contre Kamala Harris, voilà.
Donald Trump, il a ses solutions pour lutter contre l'inflation. Il veut relancer l'activité, il veut réduire les impôts, stimuler l'offre.
Oui, mais l'économie est déjà en surchauffe. Donc la question, c'est de voir jusqu'où tu peux avoir des résultats rapidement. Et l'économie est déjà en surchauffe. Donc est-ce qu'il va faire du déficit encore plus? Donc c'est la crainte, c'est que pour y arriver, il a croisé encore, la dette est très élevée aux États-Unis, la dette publique, et qu'il se mette à l'augmenter encore davantage. Donc ça, c'est là qu'on peut rentrer dans des zones d'incertitude économique.
À l'interventionnisme industriel qu'on a observé avec Donald Trump il y a quelques années, est-ce que ça va se reproduire? Et si ça se reproduit, quels seront les effets?
Non, mais en soi, alors d'abord, nous, les effets, ça peut être pour l'Europe, parce que nous, on va avoir tout d'un coup un concurrent très, très sérieux. Vous savez qu'il y a un grand problème de décrochage européen par rapport aux États-Unis. Je pense que ce problème risque de s'aggraver sous Trump.
Philippe Aguillon, les Européens doivent avant tout s'inquiéter, ou alors si on voit le verre à moitié plein, et on a des commentaires qui vont dans ce sens depuis l'élection de Donald Trump, est-ce qu'ils vont davantage s'unir? Est-ce que ça peut...
Il y a l'idée qu'ils s'unissent, mais il ne faut pas qu'ils s'unissent uniquement sur l'Ukraine, vous voyez, je veux dire, parce que Trump va faire un deal sur l'Ukraine avec Poutine, c'est certain. Donc je pense que ce qu'il faut, nous, c'est qu'on décide de faire une défense commune des pays européens, et puis que dans des domaines, l'innovation de rupture, vous voyez, on est très en retard sur les Américains, sur les États-Unis en matière d'innovation de rupture, on n'a pas l'écosystème d'innovation qui nous permette de générer beaucoup d'innovation de rupture. Et donc, c'est là que le rapport Draghi intervient pour un marché unique, plus unique, des biens et services, pour une véritable intégration des systèmes financiers européens. On a un système intégré pour financer l'innovation, et puis des vraies politiques d'innovation, recherche et DARPA, les politiques industrielles d'innovation. Donc le rapport Draghi contient plein de recommandations, et il faut, j'espère que l'élection de Trump va au moins donner un sentiment d'urgence de mettre en œuvre les recommandations du rapport Draghi.
D'un point de vue global, d'un point de vue mondial, si on a un protectionnisme accru du côté des Américains, l'économie chinoise va se tourner encore davantage, sans doute, vers le continent européen.
Peut-être qu'il y a des opportunités de ce côté-là. Moi, évidemment, je suis très soucieux des droits de l'homme en Chine, mais je pense qu'il faut saisir les opportunités qui vont être créées par l'attitude très anti-chinoise de Trump, pour essayer de voir si on peut quand même avoir des collaborations en matière de recherche. Par exemple, les Chinois ont des moyens pour financer la recherche que nous n'avons pas en Europe. Et donc, peut-être qu'il y a des collaborations très utiles que nous pouvons avoir avec la Chine, évidemment, en étant sans avoir d'angélisme. Et puis, il y a toujours le problème quand Alstom a exporté des trains à grande vitesse en Chine, au bout d'un an, les Chinois ont imité les trains d'Alstom. Donc, il ne faut pas se faire avoir. Donc, il faut parler à la Chine d'une voix en Europe, pas se laisser faire, mais en même temps, être ouvert à des collaborations qui soient justes, vous voyez, qui soient honnêtes. Mais je crois que l'Europe doit décider, enfin, de se prendre en main. Jusqu'à maintenant, l'Europe est un géant réglementaire et un nain budgétaire. Vous voyez, on réglemente trop. Et on n'a pas de moyens budgétaires suffisants. On doit avoir de la politique de concurrence, mais ça ne doit pas empêcher une vraie politique industrielle européenne et pour l'Europe, vraiment d'investir dans l'innovation de rupture. Vous voyez, biotech, ordinateur, IA, intelligence artificielle, on a de très bonnes données, on a de très bons chercheurs, mathématiciens, spécialistes de l'IA en France notamment, et ils tendent à partir aux États-Unis, donc il faut leur donner les moyens d'agir.
Alors, puisque vous parlez d'immigration, c'est l'un des grands thèmes de campagne de Donald Trump, qui va restreindre en partie l'immigration. Est-ce que l'économie américaine peut encaisser ça?
Alors, c'est vrai que ça va être intéressant parce que je pense que les États-Unis ont beaucoup profité de l'immigration. Les prix Nobel, les grands scientifiques sont souvent d'origine immigrée parce que c'est des gens qui prennent des risques. Alors, il faut une immigration choisie. Vous voyez, je veux dire, il faut des gens qui ont une certaine qualification et c'est des gens qui prennent des risques. Donc, ça fait de très bons chercheurs, de très bons innovateurs. Donc, on va voir dans quelle direction ils vont aller. Mais il faut que l'Europe ait une politique d'immigration intelligente. C'est-à-dire qu'à la fois, il ne faut pas qu'on soit une passoire, mais il faut qu'on ait qu'on pilote notre politique d'immigration, il faut une immigration choisie. Or, comme il y a un déclin démographique en Europe, on a besoin d'immigration. Seulement, il faut qu'on puisse piloter notre immigration. Il faut qu'on puisse décider dans quel domaine on veut les immigrants. Il faut qu'on ait des outils qui permettent de piloter la politique d'immigration au niveau français ou au niveau européen. Parce qu'on a besoin également de gens qualifiés pour pouvoir continuer d'avoir de la croissance, de générer de la croissance.
Est-ce qu'on va avoir des candidats à l'immigration qui prévoyaient peut-être d'aller aux États-Unis et qui vont peut-être se reporter?
Les Canadiens savent très bien profiter de ça. Donc, il faut que nous aussi, on sache profiter de ça, justement. gouvernement. C'est une chance. Et également, on aura des candidats qui sont dans Chine ou ailleurs pour des collaborations, qui ne peuvent plus collaborer avec les Américains. Il faut qu'ils puissent collaborer avec nous.
Je pense que c'est une chance pour nous.
Là, vous parlez des diplômés. Il y a aussi les pénuries de main-d'œuvre dans tout un tas de métiers.
Alors, il y a une pénurie de main-d'œuvre aussi. Mais alors, le tout, c'est de savoir comment on fait venir l'immigration de travail, mais avec des accords de retour dans les pays. Alors ça, bon, c'est tout. Il faut piloter notre politique d'immigration. On a besoin d'immigration. Simplement, il faut une politique. Alors, est-ce qu'il faut une politique de points, de système par points comme le Canada? Est-ce qu'il faut un système de carte verte pour piloter une politique d'immigration?
Une toute dernière question, Philippe Aguillon. L'irruption d'un entrepreneur comme Elon Musk dans la sphère politique. Un homme qui incarne justement ce rêve américain. Comment vous voyez cela, vous ?
C'est sûr que maintenant, il est comme un État. C'est comme un État. Il est comme un pays en lui-même, quoi. Donc, c'est dangereux. C'est qu'on a des privés qui deviennent des mini-États dans l'État. Voilà. Et qui ne sont pas sujets aux réglementations. Donc, c'est un peu préoccupant en même temps, vous voyez. Donc, c'est le pouvoir que peut avoir. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, quand on gagne beaucoup d'argent, quand on a beaucoup d'argent, on a beaucoup de pouvoir. Parce qu'on peut financer des campagnes sans limite. Chez nous, ce n'est pas possible. Il y a des limites sur le financement de campagnes politiques, comme vous savez. Donc, l'argent peut acheter de la politique aux États-Unis. Maintenant, il se peut que Musk, demain, se fâche avec Trump, parce que Trump se fâche avec tout le monde, et que du coup, il y a un basculement de Musk vers les démocrates. On n'en sait rien. Trump est imprévisible. Il peut très bien...
Et Musk l'est aussi parfois.
Donc, personne ne pourra prédire Mais c'est vrai qu'il y avait chez Trump, et qu'elle n'avait pas Kamala Harris, Trump, on savait ce qu'il voulait. Voilà, donc c'est beaucoup de choses qu'on n'aime pas. Kamala Harris, on ne comprenait pas ce qu'elle voulait. Elle a fait une campagne, par exemple, sur le problème de l'inflation, elle n'a pas suffisamment dit, avec moi, les prix, je vais les faire baisser en ouvrant le commerce, par exemple, et avec Trump, ça va augmenter les prix parce qu'il va vous mettre des tarifs. Elle aurait dû se focaliser sur ce problème-là et s'adresser à tous les Américains. Et plutôt, elle a essayé de se faire du clientélisme, s'adresser à certains, pas à d'autres, de jouer plutôt le multiculturalisme, voyez, plutôt que d'essayer de s'adresser globalement à tous les Américains. Ça, je pense que c'était une erreur, voyez. Ils n'ont pas perçu. Et si on lui posait la question, qu'est-ce que vous ferez différent de Biden ? Elle disait rien du tout. Ça ne va pas. Quoi.
D'où la perte des classes populaires.
Je pense, oui.
Merci Philippe Aguillon.
Voilà, merci bien. Merci.
L'économiste Philippe Aguillon, coprésident de la Commission française de réflexion sur l'intelligence artificielle, à l'origine, au printemps dernier, de 25 recommandations. Technologie, économie et politique, toujours plus liées. Éco d'ici, Éco d'ailleurs, donne la parole cette semaine à trois grands économistes du monde. Le dissident russe Sergueï Gouriev est avec nous dans quelques secondes. Ce sera juste après la chanteuse californienne Claude Fontaine. Yeah. Laissez-moi l'aimer. C'était Claude Fontaine sur RFI.
RFI, les voix du monde.
L'élection de Donald Trump aux États-Unis bouleversera-t-elle encore une fois les équilibres mondiaux, équilibres économiques et militaires, parfois liés comme en Ukraine, quand on connaît l'importance du soutien aux autorités ukrainiennes de la part de l'administration Biden. La guerre en Ukraine, l'économie russe, les sanctions occidentales, les projets du Kremlin en Afrique, autant de sujets de conversation avec Sergueï Gouriev, ancien chef économiste de la BERD, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Il a dirigé la formation à l'Institut d'études politiques de Paris avant de rejoindre très récemment la London Business School et en devenir le doyen, rencontre également à l'occasion des journées de l'économie.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Et nous sommes dans les jardins de l'Université Lyon 2, où se tenaient les journées de l'économie 2024, le long des quais du Rhône. Bonjour Sergueï Gouriev.
Bonjour, merci de m'inviter.
Que faut-il espérer à court terme en Ukraine, sur le terrain ukrainien? Quel est, selon vous, le meilleur scénario, à la fois en tant qu'économiste et en tant que dissident de la Russie?
Donc le meilleur scénario pour l'Ukraine et pour la Russie, c'est la victoire complète de l'Ukraine. Mais si on reste réaliste, je crois que ça sera difficile. Et maintenant, l'Ukraine n'a pas suffisamment des armes, n'y a pas suffisamment des autres ressources. Et donc, le scénario réaliste, c'est qu'à un moment donné, il y a des gels de conflit dans la ligne de front actuelle. Et on espère que cette ligne de front ne va pas bouger dans la direction de plus de territoires pour Vladimir Poutine. Et je crois que Vladimir Poutine attend des résultats des élections américaines et cabinet américain et les choix de politique par le nouveau président et son administration.
Alors il se trouve que ce conflit ukrainien est traité aujourd'hui dans l'actualité par très peu de médias, par trop peu de médias internationaux. Est-ce que c'est un conflit déjà oublié par la guerre au Proche-Orient, par l'élection américaine, par les catastrophes climatiques, par les soucis économiques des gens sur la planète?
Oui, ça a été déjà 2 ans et demi, donc c'est pas surprenant qu'il y a des autres sujets dans les médias qui est triste parce que la guerre continue et on estime qu'il y a 1 000 des Russes et 500 des Ukrainiens qui sont tués ou blessés chaque jour. Donc c'est une guerre qui continue, donc il faut pas l'oublier et il faut continuer de soutenir l'Ukraine.
Est-ce que, en tant qu'économiste russe, mais qui vit à distance, est-ce que vous arrivez à suivre l'évolution de l'économie de votre pays d'origine, sachant que les statistiques qui sont fournies ne sont pas forcément fiables?
C'est vrai, et donc il y a plus et plus des indicateurs économiques qui sont cachés, masqués, classés, comme on dit. Et donc c'est plus et plus difficile de suivre l'évolution économique, mais il y a des statistiques importantes qui sont taux d'intérêt des banques centrales russes, qui est maintenant vraiment, vraiment élevé à 21%, qui nous a dit que l'inflation, c'est un vrai problème. On voit aussi que Vladimir Poutine a été forcé d'augmenter les taux d'impôts, et ça montre qu'il est forcé de chercher des ressources, des argent. Donc cette guerre, ce n'est pas facile pour la Russie aussi. Donc,
il y a une lassitude dans la population russe, des contacts que vous avez à distance. Vous entendez ça?
Ce n'est pas facile parce que les contacts avec les étrangers sont surveillés. Et donc les gens sont très, très, très prudents dans les contacts à distance. Quand les gens voyagent, c'est vraiment lassitude et aussi les gens, comme on voit même dans les sondages officiels, on voit que les gens veulent la fin de cette guerre. Mais quelle fin, quel but, quel objectif, ça dépend des gens. Mais quand même, personne veut cette guerre continuer et on voit aussi qu'il n'y a pas de volontaires sur le front. et Poutine doit augmenter les salaires des soldats pour recruter plus de soldats. Et même avec ça, il est forcé en fait recruter des soldats du Corée du Nord, qui était vraiment, vraiment sans précédent.
La Corée du Nord, un pays encore plus pauvre.
Beaucoup plus pauvre que la Russie. La Corée du Nord est beaucoup plus pauvre que la Russie. Et donc, les soldats sont beaucoup moins chers.
Les contraintes économiques de la Russie et du Kremlin, ça nous amène à la question des sanctions contre la Russie qui ont été décidées dès 2022. Comment vous analysez leurs effets plus de deux ans après, là encore difficile à évaluer vu le manque de fiabilité des statistiques?
Exactement, ce n'est pas facile de mesurer les impacts des sanctions. Et même les trois types de sanctions qui sont sanctions contre réserves souveraines de la Russie, qui a gelé 300 milliards de dollars des réserves souveraines de Poutine, aussi les sanctions technologiques qui sont limitées l'accès de Poutine technologie et matériel militaire occidental. Et aussi, la troisième chose, c'est sanctions pétrolières. Et en plus, aussi les sanctions financières pour accompagner tous les trois. Et donc, les différents types de sanctions, en fait, limitent l'accès de Poutine à ressources et à technologies qui est essentielle pour l'Ukraine.
L'effort de guerre, c'est ça qui est limité?
Qui limite l'effort de guerre, les ressources que Poutine peut dédier cette guerre-là, et donc sans les sanctions, si on imagine le monde sans les sanctions occidentales, on peut imaginer que la guerre a déjà pris fin, et c'est fin qu'on considérait pas vraiment juste, parce que n'oublions pas que la Russie est le pays avec le PIB qui est 10 fois le PIB ukrainien, et la population qui est 3 fois des populations ukrainiennes, et l'armée, et les machines militaires, et l'industrie militaire qui est beaucoup plus forte.
Donc la Russie aurait déjà gagné sans les sanctions, c'est ça que vous dites?
Sans les sanctions, la Russie aurait déjà gagné, c'est sûr.
Comment vous analysez la cohésion, justement, du point de vue des sanctions des ennemis de la Russie, des Occidentaux en général et des Européens en particulier qui sont aux premières loges?
Oui, je crois que Poutine a sous-estimé les unités, les cohésions des coalitions occidentales qui on regarde les actions occidentales, on voit que même la Suisse et même le Singapour en fait aussi introduit les sanctions contre la Russie, mais quand même c'est que moitié du monde. Qui on regarde le PIB, population, c'est pas vraiment la majorité globale mondiale qui a introduit les sanctions contre la Russie. Et donc, ce n'est pas facile d'avoir un pacte si l'autre moitié du monde n'a pas introduit les sanctions. Donc, la question est l'utilisation des menaces des sanctions secondaires. Et donc, là, on a vu que les Américains ont utilisé ça. Et la première fois dans l'histoire, l'Union européenne a aussi commencé de menacer et imposer les sanctions secondaires. Donc, s'il y a une banque chinoise, ou entreprise chinoise, ou turque, aide Vladimir Poutine, il y a une vraie menace des sanctions américaines ou européennes contre cette banque ou entreprise, et ça marche.
Donc, vous trouvez que les ennemis de la Russie, avec le temps, ont solidifié leur alliance. On se rappelle quand même que dans les premiers mois, il y a eu pas mal de discussions autour de l'énergie, par exemple, entre les Allemands et d'autres pays européens, dont la France.
Exactement. Il y a une grande différence entre l'Allemagne et la France. La France a beaucoup d'énergie nucléaire. En même temps, l'Allemagne a été dépendante sur l'énergie russe. Et donc, ça a été pas trop facile pour l'Allemagne d'arrêter d'acheter gaz, pétrole, charbon russe. Et ça arrivait juste à fin de l'année 2022. Et donc, c'est vraiment juste décembre 2022 et février 2023 quand les vraies sanctions pétrolières ont commencé. Et ça a été vraiment efficace. Avant Poutine réussi de composer les flottes fantômes, flotte pétrolière fantôme. Et maintenant, les Occidentaux ont finalement appris comment sanctionner cette flotte.
Sergueï Gouriev, aujourd'hui, l'inflation est un peu moins forte à l'échelle mondiale. Les prix des hydrocarbures et des matières premières se sont globalement stabilisés. Est-ce que les conséquences de ce conflit pour l'économie mondiale sont encore à venir ou est-ce que c'est derrière nous?
Je crois que vraiment l'inflation est stabilisée, comme vous avez dit, mais quand même les prix sont élevés, ce qui est bon pour la transition énergétique, pour les incitations d'investir dans les énergies renouvelables. Mais quand même, c'est un impact économique important. Mais quand même, on n'attend pas, on n'y prévoit pas les autres augmentations des prix pétroliers ou prix alimentaires. Donc, dans ce sens-là, je crois que vous avez raison, l'impact est derrière nous. Mais l'impact a été très conséquent. Donc, si vous regardez la prévision du PIB mondial janvier 2022 par FMI et après avril 2022, il y a une différence de 1 trillion dollars. Donc, c'est 1% du PIB mondial. C'est vraiment conséquent. Et donc, cette guerre, ça a été très, très cher pour tout le monde.
Et ça continue de l'être pour certaines zones de la planète. S'il y a un continent qui a subi les conséquences de ce conflit en Ukraine, c'est l'Afrique. Un continent d'ailleurs où la popularité de la Russie est en hausse. Comment est-ce que vous analysez cette situation? Ce paradoxe, pourrait-on dire?
Oui, c'est une question très intéressante parce que c'est une guerre impérialiste. L'empire ancien en fait, a commencé cette guerre injuste et agressive contre l'ancienne colonie. Donc, pour les pays africains, normalement, et on a vu quelques pays en Afrique qui ont compris ça le premier jour de cette guerre, que c'est une guerre très, très injuste et très impérialiste. Même Poutine a réussi d'arriver à diffuser la propagande russe, que c'est en fait la guerre contre l'empire mondial qui est l'Occident et les États-Unis. Et donc, il a représenté la Russie comme une victime d'un impérialisme américain. Et donc, cette propagande a été très efficace avec beaucoup de fausses nouvelles, avec beaucoup de corruption des dirigeants africains. Donc, ça a été déjà, comme d'habitude, modus operandi de Poutine avec argent salé et propagande fausse qui a pas mal marché. Mais aussi, il faut mentionner le manque de l'absence de soft power occidental par rapport au manque de financement pour la transition énergétique que l'Occident a promis aux pays africains et pas en fait livré. Et après aussi, la situation avec les vaccinations pendant le Covid, qui aussi a sapé le soft power occidental. Donc il faut soutenir les pays émergents si on veut les attacher à nos valeurs et pas laisser pour les propagandes et influences russes.
Alors, d'un point de vue économique, est-ce que vous voyez la Russie s'implanter davantage dans les pays en développement en général et en particulier en Afrique? Pour l'instant, on a des entreprises russes qui sont en Afrique. Ça reste quand même très, très loin de ce qu'ont réalisé les Chinois ou même les Turcs et encore plus la France, mais qui est implantée depuis bien plus longtemps.
Bien sûr, l'investissement russe est vraiment beaucoup plus faible que l'investissement chinois. Et c'est très évident. Mais la Russie est très sophistiquée, très intelligente, pour acheter les dirigeants, pour utiliser la corruption et la propagande. Donc, avec les ressources limitées, Poutine a arrivé à recruter beaucoup de dirigeants africains. Mais il faut aussi dire que les voisins de la Russie voient très bien qu'il y a en fait une menace impérialiste. Donc, si vous regardez l'Asie centrale, il n'y a pas de popularité de Poutine là, parce que les gens sont vraiment, vraiment ils ont déjà peur des invasions russes, comme on a déjà vu en Ukraine et les autres pays voisins. Mais en Afrique, c'est trop loin. Et donc, il y a des dirigeants corrompus qui, en fait, veulent accueillir l'aide russe pour rester au pouvoir. Et parfois, ces dirigeants-là ne sont pas démocratiquement élus. Et donc, ils ont besoin des mercenaires russes, des agents russes et un peu de conseils sur les propagandes et manipulation des informations et gestion des presse.
Sergueï Gouriev, comment vous estimez l'impact des populismes et des dirigeants populistes sur l'économie? Là, on parle de tous les continents. On a l'exemple des États-Unis avec Donald Trump. On a aussi l'Argentine de Javier Milei. On a l'Inde de Narendra Modi. Dans un autre genre, on a une montée générale des extrêmes en Europe. Ça a des conséquences sur l'économie elle-même, avec des décisions parfois brutales, comme en Argentine, et puis aussi sur le débat économique.
Donc, je voudrais préciser que Xavier Milei est maintenant pas vraiment classifié comme un populiste. Il a créé une coalition avec droit centriste, le parti de Mauricio Macri, et il a recruté quelques ministres de cette parti centriste.
Mais il a été élu avec un discours populiste.
Oui, mais il n'a pas vraiment réalisé les choses qui a discuté pendant la campagne. Mais quand même, j'ai une réponse précise à vos questions, à votre question, parce qu'il y a un papier de recherche publié à American Economic Review par trois économistes, dont Moritz Schulari, qui est économiste allemand, qui est aussi professeur à Sciences Po. Et ce papier-là a étudié tous les épisodes des populistes au pouvoir depuis le 20e siècle, et la réponse est très négative. Donc, si vous avez un populiste au pouvoir et vous comparez l'évolution économique de ce pays aux résultats économiques des autres pays similaires, donc un populiste au pouvoir va vous coûter grosso modo 1% de PIB par an. Donc, après 10-15 ans de populistes au pouvoir, votre PIB est moins 10% que les pays similaires. Donc c'est très très négatif. Et aussi, que ce papier a montré que les populistes normalement essayent de détruire les institutions démocratiques et juridiques. Donc c'est pas bonne idée de recruter populistes comme dirigeants de pays.
Pour l'attractivité d'un pays, c'est
pour
ça que vous
l'attractivité des pays, pour la croissance croissance économique, pour les résultats économiques, mais aussi pour la démocratie.
C'était la deuxième partie de ma question. L'impact de l'arrivée d'un populiste sur le débat économique. Souvent, les populistes s'attaquent aux économistes qui sont souvent critiques de leur politique, que ce soit sur les questions climatiques, que ce soit sur les questions de vie quotidienne, d'inflation. Comment vous avez vu évoluer ce rapport entre les dirigeants politiques et les économistes dont vous faites partie?
On a eu ce débat aujourd'hui dans les journées économiques à Lyon, que les économistes vraiment ont considéré comme les experts, partie des élites. Et même la question est si les économistes peuvent apprendre à parler aux électeurs. Et c'est super important de connecter, reconnecter aux citoyens. Parce que l'économie, c'est une discipline qui a beaucoup de richesses, beaucoup de savoir pour améliorer la vie des citoyens. Mais maintenant, il y a cette déconnexion et les populistes utilisent cette déconnexion et parlent des économistes qui sont partie des élites et donc n'y pas vraiment honnête. Travaillent pour les élites corrompues et sont corrompues eux-mêmes. Et donc, il faut reconnecter aux citoyens, il faut parler directement langage accessible et donc c'est pas facile
s'adapter au grand public
et aussi mieux comprendre les langages, les discours populistes, lutter contre les discours populistes.
Merci Sergueï Gouriev.
Merci beaucoup.
Sergueï Gouriev, doyen de la London Business School dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Je remercie au passage les organisateurs des Journées de l'économie à Lyon pour leur aide lors du tournage de cette émission. merci à notre réalisateur cette semaine, Stéphane Desfossé. On se quitte en rendant hommage à la légende Quincy Jones, décédé le 3 novembre. Money Is, un duo avec Little Richard. La semaine prochaine, nous parlerons entre autres de transparence fiscale dans le monde à l'occasion du sommet du G20 qui se tient au Brésil. En attendant, voici les toutes dernières nouvelles du monde sur RFI.
Cette émission vous a été proposée par la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD, la banque de référence pour un impact durable sur l'intégration et la transformation de l'Afrique de l'Ouest.